attendez, je vous prie. Puis-je essayer la pantoufle?
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Ne faites pas attention à elle.
C'est Cendrillon.
Notre cerveau.
Un souillon.
C'est ridicule.
Grotesque.
Elle est folle.
RTL.
Non, c'est abominable.
La curiosité est un vilain défaut.
Je suis un homme perdu, désodoré.
Votre grâce, regardez, j'ai l'autre pantoufle.
Mes souliers sont rouges, ma mignonne, mes souliers sont rouges.
Bonsoir Denis Brunard.
Bonsoir.
Heureux de vous retrouver. Vous êtes conservateur en chef au musée des arts décoratifs à Paris, commissaire de cette exposition Marche et démarche qui se tient jusqu'au 22 mars. Et je reprends donc cette première question à laquelle il n'y a sans doute pas de réponse ultra précise. Depuis quand on se chausse ?
En effet, on n'a pas de réponse précise, mais vraisemblablement depuis que l'homme a dû marcher, depuis que l'homme a dû se déplacer. Mmh. Et d'ailleurs, la fonction première de la chaussure est de protéger le pied des aspérités du terrain, des climats, et car la première fonction de la chaussure est précisément de faciliter la marche. Oui. Ouais.
Quelle est la plus ancienne chaussure qu'on ait retrouvée, dont on ait la trace en quelque sorte ?
La plus ancienne chaussure conservée a été apparemment découverte dans une grotte en Arménie et elle date de 5500 ans. Alors malheureusement, elle n'est pas présentée à l'exposition au musée des arts décoratifs, mais nous avons des chaussures de l'antiquité grecque et de l'antiquité égyptienne qui datent de 3-4 siècles avant
notre ère. Elles ressemblent
à quoi ?
Ouais, elles sont comment ?
Ces vieilles chaussures.
Mais la chaussure de l'antiquité grecque est très intéressante parce qu'il y a une différence entre le pied gauche et le pied droit. C'est-à-dire cette différence entre le pied gauche et le pied droit, ce qui est très commun pour nous, mais va disparaître.
Alors, attendez, une différence de motif ou de taille,
une
de forme ?
Une différence de forme, c'est-à-dire que dans l'antiquité grecque, comme jusqu'au 14, 15e, 16e siècle de notre ère, comme nos chaussures de notre époque, il y a une chaussure qui est faite pour le pied gauche et l'autre qui est bien adapté pour le pied droit. Et nous avons déjà ça dans l'Antiquité grecque. Et d'ailleurs, c'est une chaussure qui devait être assez confortable parce qu'elle est pourvue d'une semelle en deux parties avec une charnière au centre qui permettait donc par cette articulation d'accompagner les mouvements du pied et donc sans doute de faciliter cette marche.
Oui, parce qu'on a un pied plus fort que l'autre, c'est ça en fait ?
Non, c'est parce que la forme, quand on regarde nos pieds, je dirais la forme du pied gauche est différente de la forme du pied droit. C'est-à-dire que entre grosso modo le 16e siècle et le 19e siècle, les chaussures étaient droites. C'est-à-dire qu'on pouvait très bien mettre la chaussure gauche pour le pied droit. Voilà.
Ah, très bien.
Il n'y avait pas de différence, on va dire, de pied gauche et de pied droit.
Pas pratique du tout.
Ouais,
on peut même voir dans cette exposition au musée des Arts Déco une chaussure en os de poulet. C'est drôle. D'où vient-elle ? De quand date-t-elle ?
Elle est très récente puisqu'elle date de 2018. C'est une création contemporaine d'une artiste qui s'appelle Corinne Bornier et qui travaille essentiellement avec donc, des os. Et cette chaussure est présentée dans une partie de l'exposition qui est consacrée aux créateurs contemporains qui ont précisément fait des chaussures avec lesquelles on ne marche que difficilement, voire avec lesquelles on ne marche pas.
À propos de chaussures avec lesquelles on marche difficilement, il y a les talons plutôt féminins à notre époque. Quand est-ce qu'il apparaît ce talon dans l'histoire de la chaussure et de la marche ?
D'abord, il apparaît en Perse, c'est-à-dire c'était les cavaliers perses qui portaient des chaussures à talons, dans le sens que pour eux c'était très pratique, cela leur permettait de bien caler les pieds dans les étriers.
Ah bah oui.
Et ensuite, entre les contacts entre l'Orient et l'Occident, le talon est arrivé vers 1600. On pense qu'au début c'était à nouveau les cavaliers en Europe qui
ont utilisé des hommes, bien sûr.
Et très vite, l'aristocratie, notamment l'aristocratie française, s'est emparée des talons parce que ça permettait de se grandir et de confirmer leur soi-disant supériorité.
Mais alors les femmes, quand est-ce qu'elles se sont emparées de ces talons alors ?
Assez tard, d'abord, femmes et hommes de l'aristocratie avaient des talons et progressivement, les hommes ont commencé à l'abandonner au début du XVIIIe siècle et quasiment jusqu'à notre époque.
Et dans la cour des rois de France et notamment à l'époque de Louis XIV, apparaissent des talons rouges. C'est quoi l'histoire de ces talons rouges ?
Alors l'histoire, c'est plutôt une légende. La légende raconte que c'est le frère de Louis XIV, monsieur, qui traverse les rues de Paris en pleine nuit et marche notamment dans une flaque de sang. Et donc il aurait accidentellement taché ses chaussures et notamment ses talons de rouge. Et la légende raconte que le lendemain, toute la cour avait peint précisément les talons de ses chaussures en rouge pour suivre cette mode. Alors c'est une légende puisqu'on sait que 15 ans avant, le frère de Louis XIV, cette mode était déjà en cours. Mmh. Mais cela montre que le talon était véritablement un signe aristocratique.
Denis Brunat, dans cette exposition au musée des arts décoratifs à Paris, il y a une chaussure pour laquelle vous avez un escarpin. C'est l'escarpin de Marie-Antoinette. On va vous raconter son histoire dans un instant sur RTL.
RTL.
Regarde,
ces chaussures.
Ouais, je sais, c'est affreux. Hein? Les chaussures orthopédiques.
Mais c'est
dire qu'il y en a qu'il faut.
Tu y es pas du tout, c'est la nouvelle mode, c'est ce que veut Nathalie.
La curiosité est un vilain défaut.
Nathalie veut des chaussures qui adhèrent.
Pour que les pompiers nous la ramènent à la maison avec un morceau de trottoir, non merci.
C'est Denis Bonnec, Thomas Huck.
T'as vu la largeur de ces golas, elle veut prendre des autostoppeurs.
Je t'ai déjà dit, il faut une semelle.
Il faut une semelle. Il faut une semaine de boulot pour payer cette paire de chasses de mes deux.
On a deux salaires.
Une sacrée chance, il y a deux chaussures.
François Pérusse, qui n'a jamais de coup de pompe dans son humour, on peut le dire, c'est toujours aussi formidable. Et c'est l'histoire de la chaussure que l'on parcourt avec notre invité, Denis Brunat, commissaire de l'exposition Marche et Démarche, qui est un tel succès qu'elle est prolongée jusqu'au 22 mars, allez-y. C'est au Musée des Arts Décoratifs de Paris et on y découvre vraiment l'histoire de nos souliers à nous. On a appris notamment qu'à une époque, le pied gauche et le pied droit, c'était la même chose, que les chaussures, elles étaient toutes droites. Bonjour, alors c'était facile à mettre pour les enfants, mais je veux dire, pour le confort, c'était vraiment pas l'idéal.
Plus mal aux pieds quand même.
C'est ça. Et puis, il y a aussi des paires de chaussures ou des chaussures ayant appartenu à des personnages illustres, comme cet escarpin ayant appartenu à Marie-Antoinette. À quoi il ressemble ?
C'est un escarpin très simple, il est fait d'une fine semelle de cuir, il est, recouvert d'un satin noir, une chaussure très très simple. Je pense avoir retrouvé l'histoire de cet escarpin, il a été dérobé dans la chambre de la reine par un soldat de la garde révolutionnaire lors des événements du 10 août 1792. Ensuite, il a donné à sa fiancée, ils se sont séparés, sa fiancée l'a gardé, l'a donné à son fils l'a donné au musée des souverains que Napoléon III a ouvert en 1853. Le musée a fermé avec la chute du Second Empire. Le Louvre l'a récupéré en 1874. Et en 1908, le Louvre l'a déposé au musée des arts décoratifs où nous le conservons. Il a été restauré spécialement pour l'exposition.
Mais ce que vous nous racontez là, ça a demandé une enquête parce qu'on n'était pas sûr que ce soit l'escarpin de Marie-Antoinette, c'est ça ?
Mais c'est-à-dire que progressivement, il y avait des doutes. Lorsqu'il est rentré en 1908 au musée, je suis allé rechercher dans l'inventaire manuscrit du musée. Il est pourtant bien dit chaussures de Marie-Antoinette. Mais ces dernières années, il y a eu beaucoup de chaussures sur le marché de l'art, etc. On a commencé à avoir des doutes. Donc j'ai pris, le taureau par les cornes. J'ai pris la chaussure par son bout et je suis allé remonter. J'essaierai de retrouver. Et en effet, on a une lettre manuscrite lorsque le donateur l'a donnée en 1853. Il donne quelques informations. Donc je suis allé travailler aux archives nationales et j'ai retrouvé en effet le soldat de la garde révolutionnaire qui a apparemment dérobé l'escarpin noir dans la chambre de la reine au palais des Tuileries.
Denis Brunat, elle chaussait du combien, Marie-Antoinette ?
Elle avait un tout petit pied, comme toutes les dames de l'aristocratie. Son pied faisait 21 cm, ce qui correspond à un 33.
Ah oui,
pour une femme de 37 ans, c'est en effet tout petit.
Pourquoi c'était si petit, Denis Brunat ? C'était la physionomie qui était comme ça à l'époque ?
C'était sans doute la physionomie, mais c'était aussi, des pratiques de modification corporelle. C'est-à-dire que quand on lit les manuels de podologie de cette époque, on conseille notamment aux dames, notamment de se bander les pieds en France. Je dis bien en France. Et notamment de se bander l'extrémité des pieds pour avoir les orteils en pointe, recroquevillés, et ce pour rechausser, en tout cas vraiment des souliers les plus petits. Car il fallait avoir le petit pied. Le petit pied était un signe aristocratique. Tout à l'heure, on a évoqué par l'enregistrement le petit pied de Cendrillon. Ouais. Et Cendrillon avait des petits pieds parce que c'était une princesse et c'était une femme qui avait une bonne éducation. Quand Charles Perrault a écrit le conte en 1697, on était vraiment dans cette culture-là. Il fallait avoir des petits pieds.
Mais ça vient d'où en Occident ? Parce qu'on en parle souvent en Chine, mais donc cette culture du petit pied en Occident, ça remonte très loin. On en retrouve la première trace d'une certaine façon ?
Oui, on en retrouve la première trace dans le courant du XIIe siècle, au cours du XIIIe siècle, dans les romans de chevalerie, la littérature courtoise, où on pourrait dire que quasiment le corps féminin est déjà établi. Il est préférable pour une femme, pour être très élégante, d'être blonde, d'être mince, avoir la poitrine haute, d'avoir la taille mince, d'avoir des mains très longues, la peau très claire et les pieds tout petits et fins.
Mais ça veut dire qu'on martyrisait ses pieds, que ce soit, bon là on vient de parler de l'Occident, si on parle de la Chine par exemple, qu'est-ce que ça signifiait pour les petites filles, qu'est-ce qu'elles faisaient avec leurs pieds ?
C'est extrêmement douloureux, mais toutes les civilisations ont connu des pratiques de modification corporelle. Ouais. Et par exemple en Chine, dès l'âge de 5 ans, 6 ans, pour les petites filles, au moins depuis le 11e siècle, l'idée était, pour avoir des petits pieds, de rabattre les orteils, sauf le gros orteil, sous la plante des pieds. Et c'est par des bandages successifs, des bandages qu'on humectait, ce qui fait que le pied allait continuer à croître, mais allait, croître en fonction, de la direction des bandages, le moule que formaient précisément ces bandes autour du pied. Et l'idée était d'avoir, à l'âge adulte, un pied de 10 cm de long, voire 8.
Vous portez des godillons et vous dites, mais d'où ça vient cette expression ? Eh bien, les militaires ont apporté beaucoup à l'histoire de la chaussure. Vous allez comprendre pourquoi vous appelez vos bottes comme ça.
J'enfile mes
chaussures. Très bien. Restez avec nous sur RTL.
Soyez fiers d'être curieux.
Je t'attendais. Je suis Oz. Le grand, le terrible Oz.
Je m'appelle Dorothy Gale.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
T'aider à rentrer chez toi est le moins que je puisse faire pour te remercier.
Et comment je fais alors ?
Regarde à tes pieds.
Sur RTL.
Claque des talons trois fois de suite en pensant à l'endroit où tu voudrais aller. Et tes souliers t'y emmèneront.
Qui c'est qui a fait dans mes chaussures ?
Luce. Il nous chante ses chaussures et un extrait du Magicien d'Oz. Il suffit de claquer des talons pour voyager, c'est trop bien. On découvre l'histoire de la chaussure dans la curiosité avec Denis Bruna, qui est conservateur en chef au Musée des Arts Décoratifs. Vous nous avez appris déjà beaucoup de choses. D'abord que le talon était une affaire d'homme, que ça a été inventé pour les hommes et notamment pour les cavaliers, que la mode des petits pieds, des pieds fins, on croit souvent que c'est réservé aux Chinois. Eh bien, pas du tout. C'était la même chose en Occident et depuis très très longtemps. Et puis alors, on va découvrir encore quelque chose avec vous, avec ce mot tronchinage, c'est ça ?
Le tronchiner, oui, le fait de tronchiner.
Vous tronchinez pas, Thomas, régulièrement ?
Non, j'avoue que je ne tronchine pas, mais je vais peut-être m'y mettre. Hein.
Je suis un peu étonné.
C'est-à-dire que dans le courant du XVIIIe siècle, avec ce siècle des Lumières, avec les philosophes, les médecins, les hygiénistes, il y a un médecin suisse, je dirais, qui est extrêmement à la mode. Et ce médecin dit que si les dames de l'aristocratie sont toujours mélancoliques, c'est-à-dire dépressives, c'est parce qu'elles restent toujours à la maison, elles ne font rien, elles font un peu de broderie.
Elles ne marchent pas à l'époque tout.
Elles ne marchent surtout pas. Elles ne marchent pas. Et alors, précisément, il dit qu'il faut que ces dames-là marchent. Alors, la mode va suivre, on va commencer à raccourcir les robes, on va mettre des chaussures un peu plus confortables. Et pour marcher, ne serait-ce que quelques minutes dans un parc était réservé à ces dames-là. Elles vont notamment, ces dames, utiliser des cannes qu'on appelle des cannes à la Tronchin.
Parce que c'était son nom au médecin ?
Oui, il s'appelle Théodore Tronchin. Ah oui. Et d'ailleurs, il a eu de son vivant la possibilité, le droit, le privilège d'avoir un véritable verbe parce que les dames tronchinent, à savoir que le matin, elles font quelques dizaines de mètres de marche.
C'était un bon conseil.
Donc je tronchine.
Bah oui,
aussi.
C'est bien ce qui me semblait.
Je marche le plus souvent possible.
Denis Brunet, puisqu'on en dans les mots étonnants de cette histoire de la chaussure et de la marche et des démarches, il y a le mot chopine aussi, qui n'a rien à voir avec l'alcool. C'était quoi une chopine ?
Une chopine, c'est une chaussure à plateforme, donc plus ou moins haute. On a beaucoup porté des chopines en Espagne entre le XIIIe et le XVIIe siècle. Mais les chopines les plus surprenantes, et d'ailleurs au Musée des Arts Décoratifs, on présente les plus hautes chopines et peut-être les plus hautes chaussures occidentales qui ont des plateformes de 55 cm de haut. C'était, donc vous imaginez une femme d'1m60 avec 55 cm de plus, elle fait 2m15.
Des échasses en fait.
Ouais. De véritables échasses, et par conséquent, on ne voyait qu'elle. Elle avait des robes longues, par conséquent, qui recouvraient les talons de ses chaussures, les plateformes de ses chaussures. Par conséquent, il fallait plus de tissu. Elle montrait qu'elle était riche. Et comme
elle ne pouvait pas marcher seule.
Donc, elle se promenait avec au moins deux servantes, deux esclaves. Et ainsi, elle montrait aux yeux de tous, précisément, son haut niveau de vie.
Ça, c'était à Venise, ça,
notamment. À Venise, au XVIe siècle. D'ailleurs, il y avait un voyageur français qui est allé à Venise et qui était vraiment très surpris de voir les femmes très, très hautes, très, très grandes. Et il a dit qu'il s'est rendu compte d'une chose. Il disait qu'une femme vénitienne est faite d'un tiers de chair, un tiers de soierie, donc de tissu, et un tiers de bois. C'est le bois, notamment, des chopines.
Magnifique. Génial.
Alors, on l'a dit, les militaires ont beaucoup fait pour les chaussures. Et d'abord, monsieur Alexis Godillot, qui est-il et qu'a-t-il inventé ?
Oh, Godillot était un fabricant de chaussures qui avait une fabrique en France, et on lui doit beaucoup, d'abord parce qu'il a permis pour l'armée française d'avoir des chaussures un peu plus confortables. C'est lui qui a généralisé la différence entre le pied gauche et le pied droit, qui va vraiment se généraliser au 19e siècle. Ensuite, il a fait des chaussures solides, il a fait des chaussures montantes, qui vont tenir bien le pied du soldat. Et d'ailleurs, on présente dans une très longue vitrine des chaussures militaires du 18e siècle à nos jours, et notamment d'un modèle de Godillot vers 1870 jusqu'en 2015, et quasiment toutes les chaussures militaires portées par les corps d'armée d'Europe et du monde sont en quelque sorte des déclinaisons de ce modèle des années 1870.
On peut dire qu'il a inventé les bottes ou c'est un...
Ah non. Les bottes sont vraiment des chaussures beaucoup plus anciennes. Des bottes à l'époque médiévale, au XVIIe siècle, c'était vraiment la chaussure masculine. Mais il a véritablement inventé la chaussure moderne, solide, qui était faite pour faire la guerre.
Eh bien voilà, on a appris énormément de choses et ça nous donne surtout envie d'aller visiter cette exposition à Denis Brunat, l'exposition qui est au Musée des Arts Décoratifs de Paris, Marche et Démarche. Il y a des chaussures assez extravagantes, il y a des chaussures qui reprennent les sabots d'un cheval notamment, celle-là.
Je vous les offrirai à Noël.
Je ne sais pas si je vais réussir à les mettre très très souvent, mais en tout cas...
Vous mettrez des talons comme vos ancêtres.
Ça s'appelle Marche et Démarche et c'est jusqu'au 22 mars au Musée des Arts Déco.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.